Prophète Agé. Prophète Agé. Livre du prophète Agé au chapitre 1er, à partir du verset 1er. Le livre du prophète Agé, chapitre 1er. Et au verset 1er. Voilà ce que nous lisons, la deuxième année du roi Darius, le premier jour du sixième mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé le prophète à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac pexé. Ainsi parle l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup, et voici, vous avez eu peu, vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez, chacun pour sa maison? C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée, la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles d'Agé, le prophète, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel, leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, « D'après l'ordre de l'Éternel, je suis avec vous, dit l'Éternel. » L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu, le 24e jour du 6e mois, la deuxième année du roi Darius. Voilà, la période à laquelle le prophète Agé a prophétisé est une période charnière dans l'histoire d'Israël, une période à laquelle l'Écriture consacre de nombreux textes. Cette période et la période qu'on appelle la période de la restauration, elle se déroule après 70 années de captivité, 70 années de captivité qui ont suivi l'invasion du royaume du sud, le royaume du sud d'Israël, ce qu'on appelait le royaume de Juda, par les Chaldéens, donc les Babyloniens. Vous savez que les prophètes, pendant plusieurs siècles, la plupart des livres prophétiques se rapportent à cette époque qui a précédé l'exil, ont parlé à Israël et au royaume de Juda. Il y avait deux royaumes suite au schisme qui avait eu lieu sous le règne du fils du roi Salomon. Et voyez-vous, Israël s'était éloigné et par cette infidélité répétée avait attristé le cœur de Dieu au point que Dieu, voyez, après maints avertissements, après plusieurs paroles prononcées de plusieurs manières et à plusieurs reprises par ses prophètes, n'a pas pu faire en sorte que ce peuple revienne vers lui. Et Dieu a permis cette invasion de Jérusalem. Le temple lui-même a été pillé. Quel saisissement pour le peuple d'Israël, qui se confiait beaucoup dans ce temple qu'il voyait là comme l'emblème, comme le symbole, comme il l'était en réalité, de la présence de Dieu au milieu de son sein. et qui voyait là son peuple emmené en captivité, les murailles de Jérusalem détruites, livrées au feu et le temple même envahi par l'ennemi. Ça a été un grand choc. Et voilà, ça a été une période de catastrophe hein, pour Israël, qui se demandait, qui pensait d'ailleurs qu'il n'y avait plus pour lui aucun espoir. Mais, vous voyez, par les mêmes prophètes, parfois, qui avaient prophétisé et mis en garde Israël contre ce jugement, Dieu avait pris soin de leur donner une parole d'espérance. Car Dieu, lorsqu'il nous châtie dans sa justice, bien, ne ferme pas pour autant toute porte d'espérance. Vous voyez, Dieu, il y a cette parole extraordinaire dans l'Écriture, « Dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. » Et Dieu avait prophétisé par le prophète Jérémie qu'au bout de 70 ans, eh bien, ce qui semblait impossible à vue humaine se produirait, à savoir qu'Israël à nouveau remonterait vers Jérusalem. Il serait ramené dans la terre de ses pères, dans la terre qu'Abraham avait promis de donner à sa postérité, et pourrait à nouveau lui célébrer un culte. Et c'est exactement ce qui s'est produit au bout de 70 ans. Il nous est dit que Dieu a réveillé l'esprit d'un roi païen, un homme qui ne connaissait rien du vrai Dieu. Et Dieu lui a parlé, c'était Cyrus, roi de Perse. Et sous l'inspiration de Dieu, parce que Dieu se sert de qui il veut, Dieu fait ce qu'il veut, il est au ciel, il fait tout ce qu'il veut, Dieu a touché le cœur de ce roi de Perse. Et le roi de Perse a donné cet ordre, qui d'entre vous est de son peuple, qu'il se lève. Il monte à Jérusalem, il s'adressait aux Juifs, et effectivement, là, ça a saisi les Juifs qui étaient là, qui s'attendaient à la promesse de Dieu, notamment deux hommes courageux, des hommes pieux, Zorobabel, le gouverneur, il était en réalité de lignée royale, même s'il n'avait pas le titre de roi, comment le pouvait-il, hein, sous l'occupation étrangère, et le souverain sacrificateur Josué, bien tout un ensemble d'hommes et de femmes d'Israël, sont remontés à Jérusalem. En le faisant, il faut bien être conscient que ces hommes et ces femmes d'Israël faisaient un sacrifice, car ils abandonnaient leurs richesses, leurs conditions, leur stabilité, ils abandonnaient leurs biens, leurs maisons, acquis dans le pays de Babylone. On peut s'imaginer qu'ils étaient bien installés, ils avaient trouvé un confort de vie certain, mais, vous voyez, ce désir de rebâtir la maison de Dieu les avait poussés à remonter. Et ça, c'est une bonne chose. Et voilà, c'était le plan de Dieu. Ça avait été conduit par Dieu. Dieu était intervenu de manière souveraine, miraculeuse, hein, en réveillant l'esprit de Cyrus. Et pourtant, même lorsque un plan, même lorsque la providence divine permet des choses, que nous sommes dans son plan, ça n'exclut pas des luttes et des combats. Jamais. C'est précisément ce qui s'est produit pour ces hommes et ces femmes qui étaient remontés vers Jérusalem. Se sont tout de suite opposés, ils se sont vus opposer une résistance farouche, opiniâtre par les peuples qui les environnaient, et qui d'abord ont essayé par la ruse, voyez, de les empêcher de reconstruire. Ils ont voulu se mêler à eux pour faire avorter leur entreprise. Mais Josué et Zorobabel ont tenu bon. Ils ont essayé par la moquerie, par la raillerie, de les décourager. Mais là encore, ça n'a pas fonctionné. Et puis parce que quand l'adversaire de nos âmes ne parvient pas à nous faire chuter d'une manière, il essaie toujours de s'y prendre d'une autre façon, bien, les peuples ont écrit au roi et ils ont provoqué une réaction là qui a fait peur aux Juifs. Le roi de Perse a dit non, ne rebâtirez pas. Ce peuple est dangereux, c'est le bruit qui circulait. Et là, intimidés par cette opposition qui s'est manifestée contre eux, eh bien les gens d'Israël ont arrêté de construire. Ils étaient remontés pour reconstruire le temple, pour reconstruire la muraille. Ils avaient sacrifié ce qu'ils possédaient et ils se sont arrêtés. C'était pas bien. Avant de le juger trop vite, considérons que nous aussi, dans bien des circonstances, lorsque nous nous heurtons à l'opposition, il n'est pas toujours aisé de persévérer. Pourtant, il est écrit, c'est celui qui persévérera jusqu'au bout, qui sera sauvé. Pourtant, il est écrit que nous aussi, d'une certaine manière, sommes appelés à bâtir la maison de Dieu. C'est le Seigneur qui bâtit son Église, hein, mais nous sommes ouvriers avec Christ. C'est ce qui est écrit. Derrière le temple, par l'image de la maison de Dieu, nous sommes appelés à comprendre que nous aussi, nous sommes appelés à constituer et à contribuer à l'édification d'une maison, non pas un temple fait de pierres, de métaux précieux, mais la maison de Dieu, c'est son Église. Non seulement son Église locale, bien, c'est ça aussi. L'Église, elle existe toujours dans des lieux déterminés. Mais la maison de Dieu, son Église, voyez, mesurons le prix et la valeur que Dieu accorde à son Église. Elle est sa maison. L'Écriture nous dit, par exemple, que nous étions autrefois gens éloignés, voyez, sans droit de cité, et que maintenant nous avons été rapprochés par le sang de Christ et qu'il a fait de nous des gens de sa maison. Pierre nous dira que nous sommes devenus des pierres vivantes et que nous sommes appelés à nous édifier pour former un saint sacerdoce, une maison spirituelle. L'Épître aux Hébreux ajoute que la maison de Dieu, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin l'espérance qui nous a été communiquée par l'Évangile. Et dans l'Épître aux Corinthiens, Paul écrira que nous sommes ouvriers, non pas apôtres comme Paul, mais ouvriers avec Dieu pour bâtir sa maison, pour contribuer à ce que son Église s'édifie. Son Église, c'est sa maison sur la terre. C'est le lieu où Dieu habite sur la terre. Non pas qu'il habite dans des temples faits de mains d'hommes, mais il habite, voyez, dans le rassemblement des hommes et des femmes qui sont nés de nouveau, nés de Dieu, nés de l'Esprit, et qui s'assemblent comme nous le faisons ce matin. Mais même lorsqu'ils ne sont pas assemblés, nous sommes unis par une espérance commune, par une foi commune, par un esprit qui nous a été donné, qui a été répandu. C'est le même esprit. Nous avons une seule foi, une seule espérance. Dans cette maison, Dieu se manifeste aux yeux du monde. Et puis, c'est vrai aussi que dans l'Église locale, Dieu nous appelle à travailler, à ce que celle-ci s'édifie, à ce que celle-ci se fortifie et qu'elle soit utile dans notre génération. Indépendamment, vous voyez, des imperfections qui peuvent se manifester partout où l'homme est présent, l'Église demeure la maison de Dieu. On comprend que le psalmiste ait pu écrire « J'aime, Seigneur, le séjour de ta maison parce que c'est là que ta gloire habite. » Alors, pour revenir au peuple d'Israël, vous voyez, était monté là pour rebâtir la maison, de remonter de la captivité dans laquelle il était demeuré pendant 70 années. Puis il s'est arrêté. Il s'est arrêté parce qu'il a été intimidé par l'ennemi. Et même, on va s'arrêter là-dessus, Dieu a suscité deux hommes à ce moment-là, parce que Dieu est bon, parce que Dieu prend soin de son peuple, parce que Dieu toujours prend soin de sa maison. Dieu a suscité deux hommes par la parole desquelles, eh bien, il a fortifié le peuple d'Israël pour qu'il se remette à la tâche. Et c'est ce qui s'est produit. Ces deux hommes, c'était le prophète Agée, c'était le prophète Zacharie. Ils avaient un message complémentaire. Ils étaient tous deux inspirés de Dieu et leur parole, eh bien, a été une force transmise au peuple d'Israël. Alors on peut appliquer cette situation, ces paroles-là que nous avons lues. On peut les appliquer à quoi? On peut les appliquer à l'Église ou à une Église, hein, qui aurait perdu du terrain, qui se serait arrêtée dans sa mobilisation, dans son travail, dans son œuvre, pour toutes sortes de raisons, hein, peut-être parce qu'elle a été découragée, peut-être parce qu'elle a été contrée, peut-être parce qu'elle a été intimidée comme le peuple d'Israël, et que Dieu voudrait remettre, voyez, à l'œuvre. On peut l'appliquer à un croyant qui aurait perdu du terrain, voyez, qui, pour toutes sortes de raisons, aurait ralenti, se serait arrêté, hein, dans sa marche spirituelle, aurait rétrogradé, serait même tombé, vous voyez, dans quelque faute, et à qui Dieu voudrait parler. On peut appliquer cette situation à quelqu'un qui aurait grandi dans une maison où la parole de Dieu a tenu une grande place. Il y a grandi, il a été éduqué, enseigné dans les voies du Seigneur, et voyez, les années passant, la vie passant, la vie suivant son cours, bien son cœur s'est éloigné. L'ennemi y a produit une œuvre, comme l'ennemi d'Israël, l'ennemi du peuple de Dieu avait produit une œuvre regrettable dans le cœur de ce peuple. Et pourtant, à qui Dieu voudrait parler, à qui Dieu voudrait donner la vie ce matin par sa parole, on peut s'appliquer ce texte, quelle que soit notre condition. Parce que Dieu nous parle, et tout ce qui a été écrit l'a été pour notre édification, parce que toute l'Écriture est inspirée de Dieu et qu'elle est utile pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous corriger parfois, pour nous instruire dans la justice, afin que nous soyons accomplis et propres à toute bonne œuvre. Et je vous propose ce matin quelques instants de méditer sur les premières paroles que Dieu a adressées en cette période si particulière, ce début de la restauration, que Dieu a adressé donc à Israël par le prophète Agé. Et peut-être, si on a le temps, quelques instants, on va regarder les premières paroles de Zacharie. Alors, dans ce texte, nous avons lu que lorsque Agé va prendre la parole la deuxième année du roi Darius, eh bien, il adresse un message qui peut sembler sévère. Hein. Qu'est-ce qu'il dit, là, Agé ? Il dit, est-ce le temps pour vous d'habiter ces maisons lambrissées quand cette demeure est détruite ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourtant, n'oublions pas qu'il s'adresse à des gens qui avaient quitté leur confort, qui avaient quitté leurs avantages au sein du pays de Babylone. Il ne s'adresse pas à n'importe qui. Dieu ne s'adresse pas à des incroyants. Et Dieu ne s'adresse pas non plus à des gens qui étaient négligents. Ce sont au contraire des hommes et des femmes, répétons-le, qui avaient sacrifié ce qu'ils possédaient, leur possession, pour se consacrer à la maison de Dieu. Vous voyez, ça c'est quelque chose que Dieu honore. Il est écrit dans l'Épître aux Hébreux, « Dieu n'est pas injuste pour oublier votre amour et le travail que vous avez fourni pour les saints. Les saints, ce sont les gens de sa maison. » Mais, vous voyez, étant intimidé, nous l'avons dit, ayant eu peur, ayant été soumis à cette pression, ces hommes qui étaient remontés, qui avaient commencé à bâtir, mais non seulement s'étaient laissés intimider, mais vous savez, le cœur de l'homme, hein, il a horreur du vide. La nature a horreur du vide. Vous connaissez les pompes à vide, hein, quand vous créez le vide, quelque part, hop, tout ce que la pompe à vide, tout ce à quoi, à proximité de quoi elle passe, elle l'aspire. Le cœur des enfants d'Israël, qui s'était consacré, étant arrêté, va se tourner vers d'autres sujets d'intérêt, d'autres centres d'intérêt. Et on découvre là, dans ce chapitre, qu'ils s'étaient mis, vous voyez, à construire, mais plus la maison de Dieu. Dans le pays d'Israël, à Jérusalem, ils s'étaient mis à se construire à eux-mêmes des maisons. Ce n'était pas illégitime. Mais, vous voyez, ils s'étaient pris au jeu, comme... Vous ne pouvez pas construire la maison de Dieu, c'est ce qui se disait, hein, puisque sinon, attention à ce qui va nous arriver. Eh bien, voilà, ils y mettaient vraiment du cœur à leur maison. Hein. Maison lambrissée, on les décorait, on les choyait, leurs économies y passaient, vous voyez. Et au bout d'un moment, oui, c'est devenu coupable. C'est devenu coupable parce qu'à travers cet arrêt motivé par la crainte, bien, l'égoïsme naturel est revenu. Alors avant de juger les enfants d'Israël, bien sûr, vous voyez, ça nous parle, hein, on sait de quoi, nous savons de quoi nous sommes faits. Et il fallait, pour arrêter cet état dans lequel étaient tombés, sans même s'en rendre compte, les enfants d'Israël, une parole tranchante. Vous voyez, parfois pour nous délivrer d'un lien, là, qui nous retient à la terre de manière indue, pour nous délivrer parfois d'un lien malsain, il faut parfois une parole tranchante. Et Dieu, qui aimait Israël, lui a donné cette parole. Pourquoi ? Parce qu'il voulait le délivrer de ce lien. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Dieu accorde cette parole, elle tranche là. Elle tranche pour les libérer. Et puis, Dieu rappelle, là, il amène Israël à réfléchir. Il leur dit, réfléchissez, considérez vos voies. Vous semez, vous travaillez, Vous mettez de côté pour manger, vous amassez des économies, vous avez même Voyez, comptez sur, avec tout ce que vous avez fait sur beaucoup, et vous avez eu peu. Et Dieu dit, ce n'est pas le fait du hasard, mais Dieu dit, c'est moi. Il dit, vous l'avez rentré chez vous, vous avez fourni des efforts, et j'ai soufflé dessus. J'ai soufflé dessus. Et cette parole-là qui devait interpeller Israël, pourquoi Dieu a-t-il fait ça? Et encore une fois, parce que Dieu aimait son peuple, et Dieu aimait particulièrement ces hommes et ces femmes qui, répétons-le, sont des gens qui au départ avaient réellement renoncé à ce qu'ils possédaient et à ce qu'ils étaient pour l'œuvre de Dieu. Et parce qu'ils s'étaient laissés, vous voyez, entraîner en arrière. Et Dieu va agir par sa providence de telle manière que les biens dans lesquels ils se confiaient soient enlevés de dessous leurs yeux. Pourquoi? Pour qu'ils ne s'y confient plus. Pour que, par la bonté de Dieu, ces choses qui faisaient là l'objet trompeur de leur espérance et de leur motivation leur soient enlevées. Ça semblait une punition, ça semblait un malheur, ça aurait pu sembler une malédiction, hein, puisqu'ils mettaient de côté, ils travaillaient, ils formaient des plans, pouf, Dieu soufflait dessus à chaque fois. Mais c'était en réalité une grande bénédiction. Vous voyez? Parce qu'ils n'y trouvaient aucun repos. Parce qu'ils manquaient de but. Parce que ce n'était pas ce à quoi Dieu les avait appelés. Parce que ce n'était pas ce pourquoi eux-mêmes avaient renoncé à leur vie, à leur possession, à leur terre, à leur maison. Ce n'est pas pour ça qu'ils étaient remontés. C'était pour bâtir la maison de Dieu. Et Dieu, parce qu'ils se sont détournés là, temporairement, de cette vocation, dit, ce à quoi vous vous confiez, j'ai soufflé dessus. Considérez attentivement vos voies. Ne vous empressez pas comme ça pour vos maisons. Lambrissez. Vous dites, le temps n'est pas venu pour rebâtir les maisons de l'Éternel. Et Dieu va parler. Et il va dire, montez sur la montagne, apportez du bois, bâtissez la maison. Et il ajoute, j'en serai glorifié. Et tant pis, vous voyez, hein, pour les adversaires, Dieu s'en charge. Il nous a dit que Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, eux aussi, vous voyez, avaient besoin d'entendre cette parole. Et le peuple entendirent la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles d'Agé, et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. C'est bon, quand nous permettons à la parole de Dieu de nous interpeller, d'agir là au fond de nous, même si elle nous remet en cause, même si elle nous humilie, même si elle nous conduit à pleurer devant Dieu, voyez. C'est le Seigneur qui dit par la bouche du prophète Ésaïe, « Voici celui sur lequel je porterai le regard, celui qui tremble et qui a l'esprit abattu, celui qui tremble devant ma parole. » Donc ils ont entendu. Ils ont entendu, le peuple fut saisi de crainte, et aussitôt, il nous a dit qu'Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, « Je suis avec vous, dit l'Éternel. » Remarquez que dans le message initial que Dieu avait adressé à Israël, il n'y avait pas de promesse, pas l'ombre d'une lueur d'espoir. C'était simplement un fait, parce que ceux à qui ça s'adressait devaient d'abord prendre conscience de l'état dans lequel ils étaient tombés et de leurs véritables besoins spirituels pour prendre les mesures appropriées. Vous voyez, lorsque le Seigneur nous appelle à revenir de nos voies, il faut revenir. Il faut revenir, la balle est dans notre camp. Hein. Mais le message ayant trouvé un écho favorable dans leur cœur, vous voyez, je me souviens du fils prodigue, hein. Voilà, le père l'attendait. Le guettait, même. Le guettait. Et alors que le fils arrive à l'horizon, il se dit, moi, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Il y a les vêtements guenillés. Le père se jette à son cou. Enlevez-lui ses vêtements. Revêtez-le, la plus belle robe. Mettez-lui les souliers aux pieds. Et on va organiser une fête. Tel est notre Père céleste. Devant ce cantique qui dit « N'aimerais-tu pas revenir ?» Et Dieu va parler aussitôt au peuple d'Israël. Il adresse cette parole par Agé. « Je suis avec vous. » Voyez, si tu te détournes, si tu reviens, tu reviens de tes voies. Dieu sera avec toi. Et aussitôt, hein, voilà, il nous a dit que, avec cette parole, il y a l'Esprit de Dieu, l'Éternel, va réveiller l'esprit de Zorobabel, de Josué et du peuple. Quand on se laisse faire par sa parole, elle est vivante et efficace. Elle est agissante et permanente. Et ça va commencer à toute une période remarquable. Rapidement, je vous propose de lire quelques versets dans le second chapitre du livre d'Agé. Le 21e jour du 7e mois, hein, c'est le mois suivant ça, à peine un mois et demi après les premières paroles. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agé, le prophète, en ces mots. Parle à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, au reste du peuple, et dis-leur, quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel, fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur, fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Nous avons vu que le premier discours qu'Agé a adressé à son peuple était un message sévère à certains égards, un message de reproche. Mais voyez, ce deuxième discours est bien différent. Adressé un mois et demi plus tard, bien il est destiné, ce deuxième discours, à fortifier, à encourager le peuple qui s'est remis à l'œuvre. Dieu désire particulièrement encourager ceux qui parmi le peuple ont connu ce que Dieu appelle la première maison. Qu'est-ce que c'était la première maison? C'était le temple de Salomon. C'est un grand temple qui frappait le regard. Et le peuple qui avait commencé à reconstruire un temple, là à l'époque de Zorobabel, à l'époque d'Agé, construisait un beaucoup plus petit temple. Et certains se décourageaient déjà, se disaient, mais souviens de ce grand temple. Là je construis une toute petite maison. Ça les décourageait. Et Dieu va leur dire, non, ne vous découragez pas, parce que dans cette petite maison, elle a beau être petite sur le plan des dimensions humaines, mais ma gloire, elle va y habiter. Et ça nous parle, ça encore. Hein. Ça nous montre que, ben, peut-être quelqu'un ce matin, autrefois, rêvait-il une vie grande par ses dimensions, une vie que les hommes allaient remarquer, que les hommes allaient élever, que les hommes allaient honorer. Et puis la parole de Dieu a produit son œuvre en nous. Nous avons compris qui nous étions réellement. Nous avons compris notre misère. Et voilà, hein, Dieu a dissipé nos illusions. On ne rêve plus de construire quelque chose de grand. On ne rêve plus de briller devant les autres. On veut simplement être fidèle, humblement. Après avoir offensé Dieu, on prend conscience que notre part, c'est de le servir humblement. Parfois, quand ça arrive, on peut être tenté de se décourager. Est-ce que Dieu en a fini avec moi? Dieu dit, ne t'occupe pas. Fais ce que tu peux. Travaille pour ma maison. Parce que ma gloire sera dans cette maison. Dans ton travail, peut-être que les hommes ne le verront pas. Peut-être que ce que dont tu rêvais autrefois, effectivement, ça ne se réalisera pas. Mais je t'assure, c'est ce que Dieu dit à Israël, je serai avec toi pour bâtir la maison. Pour bâtir la maison. Allez, on lit un dernier texte. Hein, on va lire simplement dans le livre de Zacharie. Dans le livre de Zacharie, chapitre 1er, le verset 1er. Zacharie, chapitre 1er, verset 1er. Le 8e mois, c'était le mois suivant. Hein. Le 8e mois, la deuxième année de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie, fils de Bérékia, fils d'Ido, le prophète, en ces mots. L'Éternel a été très irrité contre vos pères. Dis-leur donc, ainsi parle l'Éternel des armées. Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Alors il y a tout un discours, en réalité il y a plusieurs discours que Zacharie va prononcer successivement. Nous n'avons pas le temps d'en parler ce matin. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que, deux mois à peu près après le premier message, Dieu, par un autre homme, par un deuxième prophète, va adresser des paroles à Israël. C'est bon, hein, quand Dieu nous parle, il nous parle comme il veut. Mais c'est toujours lui, hein, ça va toujours dans le même sens. Il y avait deux hommes. Dieu a soulevé deux prophètes. Pourquoi? Parce que parfois, hein, entendre la même chose, mais par deux canaux différents, ça nous persuade encore plus, ça nous fortifie. Et finalement, il n'y avait rien de nouveau dans ces premières paroles que Zacharie va prononcer à l'égard d'Israël. C'était les mêmes paroles. « Revenez à moi », c'est déjà ce qu'Agé leur avait dit, « et je reviendrai à vous ». C'est ce que Dieu avait dit aussi, hein, « je suis avec vous, bâtissez, ne vous découragez pas. Ne perdez pas courage parce que la maison vous semble plus petite. Pourquoi ? Parce que ça fait du bien. Vous savez, quand quelqu'un revient à Dieu, quand une église là, se ressaisit, quand quelqu'un là, se ressaisit, quand quelqu'un vient à Dieu, revient vers Dieu, dit « Seigneur, j'ai laissé passer l'occasion que tu m'as donnée dans ma jeunesse, mais je viens à toi aujourd'hui. Je veux que tu me sauves, je veux maintenant travailler pour ta maison, je veux être une pierre vivante, je ne veux pas être perdu dans les ténèbres du dehors. Je veux avoir ma place dans ta maison et je veux avoir la place dans la maison que le Seigneur va me préparer quand il reviendra. » Eh bien, on a parfois besoin d'entendre les mêmes paroles parce que au fil des mois, hein, il s'en passe des choses dans un cœur. Parfois, c'est un champ de bataille. Et Dieu sait que parfois, nous avons besoin de plusieurs paroles, même si elles disent la même chose. Et c'est ce que Dieu va faire pour Israël. Il va parler à nouveau. Alors, on va s'arrêter là, ce matin. On va s'arrêter là. Si ça vous fait du bien, si ça nous fait du bien, tant mieux. Gardons quelques paroles que Dieu aurait pu nous adresser. Et quoi qu'il en soit, gardons la parole de Dieu, parce qu'elle est toujours bonne pour nous enseigner. Que le Seigneur nous bénisse. On va se recueillir et prier ensemble. Merci Seigneur.